Et l'homme des glaces fait son retour à la une de la science, Axel, avec une nouvelle analyse de son corps momifié.
Oui, Mathieu, Ötzi, le marcheur des montagnes, c'est très certainement la momie des glaces la plus étudiée par la science. Il est mort, assassiné d'une flèche dans le dos il y a 5300 ans dans les Alpes italiennes. Le froid a conservé son corps jusqu'à sa découverte en 91 et puis les scientifiques ne s'arrêtent plus depuis de l'ausculter. Une nouvelle étude de son corps montre de nombreuses blessures et pathologies présentes bien avant sa mort, mais aussi, et c'est le plus intéressant, des traces de possibles traitements.
On l'entend marcher dans la neige dans avec notre super production sonore.
Ça a coûté très cher.
Oui.
On discute donc de médecine et de préhistoire avec notre invité Jean Guilaine par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pré- et proto-historien, professeur au Collège de France. Et bien sûr, comme tout le monde, vous avez craqué devant le sourire un peu crispé de Tsi. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est quand même que le bonhomme était sacrément mal en point. C'est en tout cas ce que confirme cette étude, Jean Guilaine.
Ah, son état de santé n'était pas très brillant, en effet. Il avait des blessures diverses sur le crâne, à la main droite, qui était toute récente au moment où il est mort. Il avait des maladies dégénératives, des lésions articulaires. Alors, qui venait peut-être de ses marches pénibles en haute montagne. Mais d'ailleurs, son ADN a montré aussi qu'il avait peut-être la maladie de Lyme, cette maladie qui est occasionnée, vous savez, par les piqûres de tiques. Dans son estomac, il avait plusieurs bactéries, notamment le Helicobacter pylori, là, qui est bien connue, qui est une bactérie qui occasionne des brûlures, des ulcères et éventuellement des cancers. Il avait des parasites dans son intestin, et notamment la trichine, là, qui donne une maladie, la trichinose, avec tout un cortège de diarrhées, de coliques, n'est-ce pas, de fièvre. Il avait également des côtes fracturées, alors ça c'est plus ancien, elles étaient guéries, elles étaient consolidées. Il avait 3 calculs biliaires.
C'est incroyable.
Il avait des plaques d'athérosclérose, n'est-ce pas, un gène donc qui prédisposait en fait à cette maladie. Donc vous voyez, son état de santé n'était pas très brillant et pour un homme, disons, entre 45 et 50 ans. Mais à cet âge-là, c'était déjà un âge avancé.
Combien de temps on tient avec autant de maladies en vie, Jean-Guilaine?
Écoutez, je n'en sais trop rien, je ne les ai jamais eues tout en même temps.
Parce que ce qui est intéressant quand même, c'est que ce n'est aucune de ces maladies qui l'a tué, puisqu'on sait qu'il est mort d'une flèche dans le dos.
Oui, absolument.
Et c'est là qu'on en vient à la médecine, parce que ça veut dire qu'il se soignait alors.
Et il se soignait, bien entendu. Alors, on n'a pas beaucoup de données. Au fond, si vous voulez, la momie d'Ötzi nous en apprend davantage sur les maladies que sur la médecine préhistorique, les maladies dont il était ou pouvait être atteint, n'est-ce pas, que sur la médecine elle-même. Alors, on a, pour savoir éventuellement quels étaient ces médicaments, on a 2 types de renseignements. D'une part, ces tatouages. Et d'autre part, les restes de végétaux ou de pollen qu'on a trouvé dans son estomac.
Mmh.
Alors les tatouages, n'est-ce pas, il a des tatouages sur le corps, et en particulier sur les parties douloureuses du corps, n'est-ce pas, les poignets, les genoux, les chevilles. Il a une 60aine de tatouages comme ça, qui sont disposés en 19 groupes. Alors, on a vu très tôt, d'ailleurs, dès sa découverte, l'hypothèse a été avancée que ces tatouages avaient été faits dans un but médical pour calmer les douleurs sur les points les plus douloureux, en quelque sorte, du corps, par suite de maladies dégénératives.
Mais c'est de l'acupuncture, Jean-Guilaine? On peut parler
alors,
de ça ou pas?
Alors, justement, c'est le problème. On a parlé d'acupuncture, déjà. Mais c'est en même temps, c'est quelque chose qui est discuté. Ces traces, ce sont des incisions. Et parfois, ces incisions sont disposées en croix. Et dans ces incisions, on a introduit une sorte de poudre végétale. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'acupuncture? Alors, ceux qui défendent cette théorie disent qu'en fait, ces essais de médication, en quelque sorte, se trouvent sur les méridiens, c'est-à-dire les canaux, n'est-ce pas, qui transmettent l'énergie au corps. Mais en même temps, c'est contesté parce que d'autres chercheurs disent qu'il y a plus de 600 points d'acupuncture sur le corps humain et que la coïncidence entre les tatouages d'Ötzi et puis les points d'acupuncture ne démontre rien, ne sont pas démonstratifs. Mmh. Voilà en quelque sorte l'état des données concernant les tatouages. Pour ce qui concerne les restes de trouvés dans l'estomac d'Ötzi et dans ses viscères, alors pour l'estomac, comment se soignait-il éventuellement de d'Helicobacter pylori? Dans son équipement, on a trouvé un champignon, le polypore du bouleau, n'est-ce pas, qui est une sorte de champignon que l'on trouve sur le tronc des arbres, qui se développe sous forme de plaques, un peu dures parfois, ça ressemble à du bois, des plaques superposées, épaisses. Alors, on pense que ça pouvait être un médicament qu'il amenait avec lui, parce que les champignons peuvent contenir des substances acides, et ces substances ont des propriétés antibiotiques ou anti-inflammatoires. Alors, on n'exclut pas qu'Ötzi, évidemment, trimballait ses pièces de bouleau, peut-être éventuellement pour se soigner. Alors, il y a un autre problème, c'est l'intestin, puisque dans son abdomen, il avait des restes et des pollens de plantes qui ont des facultés médicinales. Vous voyez la difficulté avec le temps. On trouve des restes, mais on ne sait pas si ces restes ont servi à telle ou telle fonction.
Mais Jean-Guilaine, les auteurs italiens disent que toutes ces plantes et toutes ces mousses trouvées dans l'estomac, ils voient une forme de tâtonnement. On essaye des plantes pour voir si ça marche, quoi.
Voilà. Oui, mais alors, j'ouvre une parenthèse ici. Il est certain que dès les temps paléolithiques, les hommes ont mis au point toute une pharmacopée, en quelque sorte, pour se guérir. On peut même se demander, d'ailleurs, si en quelque sorte, ces connaissances qui portaient sur un savoir, au niveau des végétaux en particulier, à très large spectre. Si ces savoirs n'ont pas régressé, en quelque sorte, avec le néolithique, c'est-à-dire à partir du moment où l'homme a ciblé son intérêt avec l'agriculture sur un nombre plus restreint de plantes, les céréales, les légumineuses, si tout ça ne s'est pas traduit par une perte de savoir, par manque de pratique. Vous savez qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de savoirs naturalistes qui tendent à disparaître dans notre monde urbanisé, par manque de pratique, effectivement.
Jean-Guilaine, pour terminer, parce qu'il faut qu'on termine, on est obligé, une dernière question. Qu'est-ce qu'on sait un peu de l'émergence de la médecine ou des traitements ailleurs dans le monde et à la même époque?
On sait peu, et en général, on se doute évidemment que l'homme a pu, par exemple, avoir des recettes élémentaires de kinésithérapie, pour traiter des affections ostéo-articulaires par, je dirais, immobilisation en rectitude. On sait, par exemple, qu'il y avait des dentistes préhistoriques, puisque à Mergar, au Pakistan, on a trouvé des dents qui étaient percées avec des mèches de silex et pour faire de véritables plombages. Et puis, on a, vous en avez touché un mot tout à l'heure, les fameuses trépanations.
On va y revenir tout à l'heure d'ailleurs, Jean-Guilaine, voilà, effectivement. Ce sera un des sujets pour parler de la maladie mentale et de la folie avec nos invités. Merci beaucoup en tout cas pour vos explications, Jean-Guilaine, avec cette publication autour d'Ötzi. Et puis on aura l'occasion de vous retrouver dans les mois qui viennent dans La Tête au Carré, à l'occasion de la sortie de vos mémoires. Merci beaucoup et puis Axel, à très bientôt, à demain.
À demain.
Même. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le requin pèlerin calme et mangeur de plancton qui cache en lui une sacrée puissance. Des océanographes de Belfast qui ont suivi l'animal de près pendant plusieurs mois ont rapidement remarqué que, comme son cousin le grand requin blanc, il était capable de sauter hors de l'eau et de nager à grande vitesse. Les chercheurs ne comprennent d'ailleurs pas vraiment l'intérêt pour ce requin qui ne pratique pas la chasse. Il est capable de descendre en outre à 25 mètres de profondeur en 9 battements de queue, ce qui correspond à une vitesse de 20 km/h. La planète Wolf 503b qui flirte avec son soleil. Une équipe internationale d'astronomes vient d'identifier une exoplanète qui tourne autour de son étoile en seulement 6 jours. Elle est donc très très près de son soleil, environ 10 fois plus proche que Mercure ne l'est justement de son astre. 2 fois plus grosse que la Terre, Wolf est aussi relativement proche de nous, 145 années-lumière. Les chercheurs vont donc continuer à la regarder de près car sa vitesse de rotation va permettre de collecter beaucoup de données en peu de temps d'observation. Et puis le méthane va fuir aux États-Unis, c'est une mauvaise nouvelle pour le climat. L'administration Trump vient en effet d'affaiblir les règles qui contraignent les compagnies gazières à réparer les fuites sur les grandes conduites de gaz à travers le pays. Le méthane, gaz à effet de serre 25 fois plus réchauffant que le CO2, va donc s'échapper de plus en plus dans l'atmosphère. La quantité de gaz émis par ces fuites à l'échelle du pays est difficile à estimer. Rien qu'au Colorado en 2015, plus de 75 000 fuites ont été réparées par les distributeurs.